Re-bienvenue pour cette prochaine tranche horaire. Nous accueillons Jimmy Sintero. Donc Jimmy, tu es designer graphique, tu es syndiqué au Snap CGT et membre du groupe de travail sur la continuité des revenus pour les artistes auteuristes. Constitué de plusieurs organisations professionnelles, ce groupe travaille pour intégrer les artistes auteuristes dans la caisse commune de l'assurance chômage.
Parce que nous n'avons que partiellement esquissé ce qui peut se passer à la sortie de l'école, par exemple en évoquant la poursuite de ce qui nous tient à cœur à l'ESSAD, comment faire recherche en commun et donc comment poursuivre différemment en dehors des manières de faire en commun, ou bien alors en essayant de décrire l'écosystème nécessaire à la production et à la diffusion du travail artistique qui regroupe une foule de compétences, de savoir-faire, de métiers, à savoir les artisans, artisanes, les techniciens, techniciennes de l'art, les monteureuses, les médiatrices, médiateurs, toutes celles qui diffusent, administrent, organisent, transmettent l'art.
Il nous semblait donc nécessaire, voire indispensable, d'accorder également un temps spécifique à comprendre les conditions matérielles d'existence de ces métiers qui attendent nos étudiants et étudiantes à la sortie de nos écoles. Et pour cela, donner la place et la parole à une personne qui suit de très près ce qui se passe en ce moment sur le projet de loi pour la continuité de revenus pour les artistes auteuristes. Parce que cette envie de réforme du statut ou des statuts permet de comprendre, de décrire d'où on vient, nos conditions de travail, de subsistance, notre condition pour emprunter le titre de l'essai d'Aurélien Catin sur le salaire au travail artistique, Aurélien qui fait partie du groupe de travail aussi dans lequel tu es Jimmy. Et donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les conditions, les origines d'un tel projet de loi ?
Déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, c'est un projet de loi qui fait une proposition de loi, parce que ce n'est pas encore un projet de loi, qui date déjà de quelques années maintenant, qui a débuté à peu près en 2020-2021, à une période particulière, parce que c'était au moment où il y avait le Covid avec la crise sanitaire. Et dans cette période-là, des artistes et des artistes auteuristes, et je vais en revenir après sur ce que c'est ce statut-là, ont vécu une forme particulière. Une sorte d'effet d'intermittence, ce qui n'était pas du tout le cas, mais en tout cas, ils ont pu bénéficier par un hasard où les personnes qui étaient sur le statut de micro-entreprise permettaient d'avoir des aides à ce moment-là, du fait de la cessation de l'activité. Et du coup, des artistes et des auteurs ont commencé en fait à toucher de l'argent et à vivre quasiment une forme de chômage, ce qui n'était pas dans sa forme. Et ça a commencé à constituer une idée de en fait, cette possibilité-là. Dans le même temps, il y a eu en effet un ouvrage qui a été édité au moment où il est sorti le jour, quasi une semaine avant la fermeture, qui était celui-là de Notre Condition d'Aurélien Catin. On va dire que cet ensemble a constitué un premier groupe de travail qui s'est retrouvé entre du coup le Snap CGT dont je fais partie, qui est le syndicat national des artistes plasticiens plasticiennes au sein de la Confédération générale du travail, la commission culture du Parti communiste français et la BUSE, qui est un collectif de travailleuses de l'art qui réfléchit sur les conditions dans le travail artistique. Et à ce moment-là, il y avait aussi un autre syndicat naissant qui est le STACNTSO, qui est la partie du syndicat des travailleuses de l'art sous le statut artiste auteur autrice du côté CNTSO. Donc tout ce petit groupe de travail a commencé à plancher sur comment en fait intégrer les travailleurs indépendants au sein d'un outil commun qui est la caisse commune de l'assurance chômage. Et il s'est rencontré avec un député à l'époque qui s'appelle Pierre Dharréville. Et ce groupe a commencé en fait à aboutir à une première trace de proposition, enfin un premier texte qui est sorti en 2021. Qui en fait a très vite après dans sa première forme qui a posé un peu les bases solides en fait de cette proposition, mais il n'y a pas eu un mouvement derrière qui s'est enclenché parce que très vite il y a eu l'élection présidentielle qui est arrivée. Le temps après a un peu coulé parce que juste derrière il y a eu la réforme des retraites et avec tous les questionnements qu'il y a eu aussi autour des écoles d'art qui a aussi engagé beaucoup à la fois le syndicat etc. Et ça a aussi, et c'est, on dirait ce temps-là a permis également de notre côté à travailler plus en fond et à réfléchir à comment mieux médiatiser cette proposition. Et surtout, en décembre 2023, il y a eu une édition qui est sortie, qui s'appelle Pour une continuité de revenus des artistes auteuristes. Et cette édition explique d'une manière pédagogique, politique, l'ambition de cette proposition de loi. Donc, pour intégrer qui sont les artistes auteurs, quel est ce statut pour les intégrer. De là, il est sorti en fait un deuxième dépôt de cette proposition de loi au mois de mars, dans une ambition d'en faire une proposition de loi transpartisane à l'Assemblée nationale par toujours Pierre Dharréville, qui était député à l'époque. Il y a eu un grand, en fait, à partir de là, de janvier, on a commencé ce qu'on appelle la campagne de la continuité de revenus, où en fait, de janvier jusqu'à juin, au moment de la dissolution, on a fait plus d'une quarantaine de présentations à travers toute la France, même dans les dom-toms, et donc ça a engagé très fortement le syndicat, les syndicats, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi d'autres organisations professionnelles qui ont rejoint le combat. Donc je pense à la SRF, du côté réalisateur, réalisatrice de films, la Ligue des auteurs du côté auteur de l'écrit et bande dessinée, etc., etc. Et il y a eu une pétition qui est sortie, qui a rassemblé plus de 18 000 signatures en faveur d'une intégration des artistes auteuristes dans la caisse de l'assurance chômage et pour cette proposition de loi. Et donc, comme tout à l'heure je disais, il y a eu à un moment, ce projet s'est stoppé au moment de la dissolution par Emmanuel Macron, qui a après entamé du coup un stop. Le résultat a été que en fait, Pierre Dharréville n'a pas été réélu à côté de Fosse. Il a été battu par un tabouret du RN. Je dis tabouret parce qu'il était inexistant. C'est élu localement. Et du coup, ça a entamé un nouveau travail qu'on a dû tout repartir à partir de zéro, à partir d'octobre, avec une nouvelle députée qui maintenant reprend le flambeau, qui s'appelle Soumia Bourra, qui est députée de Seine-Saint-Denis. Et donc, dans la même ambition, mais avec une beaucoup plus grande force, on a réentamé, du coup, en fait, un nouveau combat pour faire porter cette proposition de loi en transpartisan. Pour définir ce que c'est une proposition de loi transpartisane, ça veut dire qu'elle est signée par à la fois une grande partie des groupes politiques. Donc nous, on veut les signatures de l'ensemble des groupes politiques hors RN, bien entendu. Et à ce jour, cette proposition de loi du côté Assemblée nationale rassemble plus de 90 signatures de députés. Il nous en manque encore 7 du côté de la soi-disant majorité présidentielle qu'on a en cours de recherche. Et la petite nouveauté qu'il y a eu, c'est au mois de novembre, il y a eu un dépôt du côté du Sénat, par une sénatrice des Verts avec Monique DeMarco, qui est dans la même logique, en fait, veut porter cette proposition de loi d'un côté transpartisan et donc d'entamer aussi un travail pédagogique dans cette chambre, dans cette autre chambre politique. Et il faut savoir que dans le côté, je parlais du côté pédagogique, parce que on est dans des espaces politiques qui ont une très forte méconnaissance de ce que c'est le travail de l'art. Pour eux, les artistes auteurs, ça se résume au droit d'auteur, principalement. Après, il y a une méconnaissance forte ce que c'est en fait le travail artistique, qu'est-ce que ça constitue, etc. Donc il y a un gros travail de ce point de vue là. Et la nouveauté, et après on en reviendra plus dans le détail du texte, c'est que là on en est du côté Assemblée nationale à avoir une mission flash, ce qu'on appelle, parce que dans cette même du coup optique d'arriver en fait une commission, avoir une proposition de loi transpartisane, on a voulu aussi avoir une mission flash qui serait en fait en gros une sorte de mission parlementaire qui va durer 4 mois. Avec un cours d'audition qui va aboutir à un rapport parlementaire qui va établir des propositions et des recommandations en vue de cette proposition par rapport à cette proposition de loi. Donc on a pas mal de choses qui ont avancé depuis et il reste encore du travail, parce que notre objectif, c'est bien sûr qu'il y ait une mise au vote et le plus vite possible de cette proposition de loi.
Bien, merci beaucoup Jimmy pour la chronologie qui nous permet de comprendre le contexte politique. Avant d'entrer dans la description de ce projet de loi, peut-être qu'on pourrait nous tenter de comprendre qui cette proposition pourrait intéresser, qui se cache derrière cette population qu'on pourrait désigner comme des artistes auteuristes, en évoquant peut-être dans un second temps la figure de la travailleuse de l'art, en signalant son émergence récente, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle dissimule.
Alors, du coup, la catégorie d'artiste auteur, autrice, elle recouvre une trentaine de professions. Donc ça à la fois des écrivains écrivaines, des scénaristes, des artistes peintres, plasticiens plasticiennes, graphistes, designers, photographes, scénaristes. Enfin, c'est très très vaste dans ce qu'ils recouvrent. On dénombre en 2024 456 000 personnes qui cotisent sous ce régime. qui sont recensés par l'URSSAF Limousin. C'est qu'on est artiste-auteur, du coup, en fait, c'est un régime social, on cotise, et c'est l'URSSAF qui recense les cotisations. Si on parle après en termes de population constante, les artistes-auteurs, c'est-à-dire en population constante, c'est des personnes qui déclarent une activité au moins au cours de 3 années de suite. On arrive à 180 000 personnes en 2021. Donc, c'est à peu près ça, cette population. Les artistes auteuristes, ils travaillent dans un secteur économique qui représente à peu près 2% du PIB français. Donc il faut savoir que la culture, par exemple, c'est un secteur économique plus important que l'industrie automobile. Le paradoxe, c'est qu'au sein de ces secteurs, par exemple les arts visuels, c'est une production qui est estimée à 15,1 milliards d'euros avec une valeur ajoutée estimée à 6,6 milliards d'euros. Donc en fait, au sein de cette masse de production industrielle très forte, on se trouve que ces acteurs-là, les artistes autoristes, qui sont les créateurs des œuvres, en fait les personnes à l'origine des œuvres, c'est la différence qu'il y a avec les intermittents, intermittentes, qui sont en fait des personnes, ces artistes interprètes qui interprètent une œuvre, qui sont à l'origine des œuvres, se retrouvent dans une situation de précarité très forte. Et donc, c'est tout le paradoxe de cette situation-là. Donc, cette proposition-là, elle concerne cette population. Et quand je parle de précarité forte, c'est qu'en fait, dans cette diversité de métiers, donc d'artiste-auteur, de scénariste à artiste-peintre, il y a des caractéristiques structurelles qui les traversent. J'en en dénombre deux. Il y en a la première, c'est la précarité. Quand je parle de précarité, je fais une différence avec pauvreté. On peut être précaire, mais pas pauvre. La précarité, c'est en gros, on ne sait pas si le mois prochain on va pouvoir payer son loyer. Il y a une difficulté d'accès aux prêts bancaires. C'est une sorte de cette difficulté par rapport à plein de choses quotidiennes de la vie, même avoir un enfant en fait. La deuxième chose aussi qui traverse tous ces métiers-là, c'est la question de l'inégalité. Pour un chiffre, 3,4% des artistes autoristes concentrent 48% des revenus artistiques disponibles. On est dans la même proportion que dans l'immobilier, par exemple. Du coup, voilà, pour déjà définir ce paysage. Et après, pour définir, par exemple, encore une fois, quelles sont les causes, en fait, en gros, de toutes ces questions de précarité. On en a plusieurs, en fait. Il y a la première qui est en train de changer, c'est la faible structuration de nos organisations professionnelles. C'est une chose qui est en mouvement, qui est en train de bouger. On pourra en revenir tout à l'heure sur comment les syndicats prennent de plus en plus de poids et d'importance aujourd'hui. Et ça en rejoint aussi relien sur la question de travailleurs de l'art. Le deuxième point qui est une des causes en fait de cette situation-là, c'est l'attitude paternaliste des diffuseurs. Les diffuseurs, c'est les personnes qui font acte de diffusion de nos œuvres. En gros, c'est nos patrons, si on peut les appeler de manière entre guillemets. Et aussi tous les grands acteurs de l'économie culturelle. Troisième point, c'est l'absence de débat public jusqu'à aujourd'hui de la notion même de travail artistique. C'est une chose qui est aussi en train de changer, par exemple cette émission-là, il y en a plein d'autres. C'est une chose que même dans notre secteur, on commence en fait à prendre conscience. Et c'est d'où pourquoi l'importance du travail de travailleurs de l'art. C'est qu'en gros, on n'est plus comme ça des personnes qui sont hors sol. On est au sein d'un système économique. Et surtout, on est dans cette volonté-là de reprendre un rapport politique du fait de notre travail. Et une quatrième cause qui est assez essentielle, c'est la persistance de modes de rémunération qui reposent sur la compétition et la performance individuelle. Dans ces modes de rémunération, on en dénombre trois. Il y a le premier qui est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, en gros, c'est que je fais une œuvre, par exemple une musique, etc. Si mon œuvre est diffusée par une chance, une forte diffusion, je vais toucher une rente de cette diffusion-là. Donc en fait on est ça passe par des OGC, donc comme disait la SACEM, la DAGP, la SAIF, etc. Ça c'est le premier droit qui est un droit patrimonial. C'est une construction révolutionnaire qui a eu au cours du 19e siècle. La deuxième mode de rémunération, c'est les honoraires. Les honoraires, c'est le travail à la tâche. Les graphistes, pour plus graphistes, on est très souvent liés à cette mode de rémunération là, c'est-à-dire que je fais un travail, à la fin c'est la facturation, du coup à la fin de mon travail je vais être payé. Encore une fois, on reste dans une mode de rémunération qui est sur la performance, avec une insécurité au niveau, on n'est pas dans le salaire, etc. Et typique mode de rémunération du 19e siècle. Par rapport à ces deux modes de rémunération qui sont structurellement précaires et qui reposent, comme je disais, sur la performance individuelle et tout, il y a un troisième mode de rémunération qui s'est construit au cours des années 80 qu'on appelle les bourses et les aides à la création. C'est-à-dire, c'est un système qu'on appelle une aide palliative. C'est-à-dire que l'État va venir... qui est au cours de l'État beaucoup dans les années 80. Aujourd'hui, on voit que c'est un remplacement par les fondations, etc. On va en fait vous venir en substance. Les artistes, c'est sympa, il faut un peu les aider. Donc on va en fait aider par les aides et les bourses à la création, mais on n'aide pas le travail, on va aider la création, l'œuvre. Et très souvent, ce qu'on voit dans les aides et les bourses à la création, c'est qu'on a des volumes globaux à l'intérieur, et à l'intérieur, l'artiste doit pouvoir se payer peut-être. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut payer, c'est la création de l'œuvre. Même des fois, on trouve des aides à la création où on ne facture même pas le travail. On doit seulement justifier les achats de production. Ce qui fait que le résultat, c'est que ces trois modes qu'on voit, elles font que la condition des artistes autoristes, elles dépendent uniquement du succès de leur création. On est en concurrence perpétuelle, les uns contre les autres, les unes contre les autres, et c'est les meilleurs qui vont gagner.
Ça met la notion de mérite au cœur, en fait.
Ouais. Et par exemple, le résultat, c'est que 10% des artistes autoristes gagnent plus de 26 000 euros aujourd'hui. Donc c'est qu'une minorité, en fait, qui arrive à vivre de leur métier, et au sein même en fait, de ces inégalités-là, il y a bien sûr toutes les inégalités structurelles au sein de la société, avec des différences de revenus hommes-femmes qui s'ajoutent par rapport à ça. Si je prends juste un chiffre, dans les chorégraphes, par exemple, on a des différences de revenus de 40% entre les hommes et les femmes. On est dans moyenne au-delà que dans le salariat privé. J'ai fait une longue réponse sur les...
Non, c'est, il faut aussi rentrer dans le détail et puis essayer de comprendre aussi de quoi on parle, parce que on l'a dit, on n'a pas nécessairement un public d'auditeurs auditrices qui saisit tous les aspects.
En ce qui concerne justement ce projet et comment vous le faites exister, est-ce que tu peux nous peut-être reparler de l'organisation syndicale dans le sens de quel est le processus de travail, comment est-ce que vous constituez du coup ce travail de groupe en fait pour le faire à la fois évoluer, exister, comme tu le dis, visible quoi, parce que du coup il faut aussi faire cette édition des textes, une diffusion. Et puis
la proposition de loi en soi, cette description-là.
Je peut-être je vais répondre après sur comment, parce que au moins ça permet de tirer le fil. Après, d'accord, je répondrai sur comment, sur la méthodologie de travail même, oui, comment on a fait. Donc pour continuer, en fait, c'est vrai que là tout à l'heure, je vous ai posé un paysage quand même très sombre et assez, on va dire, qui peut être déprimant. Ce qui est le cas, enfin, si on peut le dire. Mais en fait, à l'intérieur de ça, on s'attache, nous, sur une question du déjà-là. C'est-à-dire qu'en fait, au sein de ce statut très précaire, il y a un conquis très fort qui a été fait en 77, c'est le fait qu'on est rattaché au régime général au sein de la sécurité sociale. Ça veut dire que nous, les artistes autoristes, on cotise et on dans la même caisse que dans le salariat privé, et pour obtenir les mêmes droits. C'est-à-dire qu'à partir de 600 heures SMIC, je vais m'expliquer sur après ce que c'est 600 heures SMIC, c'est-à-dire 7 826 euros cotisés, on obtient en fait tous nos trimestres de retraite, la santé, indemnité maternité, journalière, maternité, paternité. On a encore plein de droits qui nous manquent. Qu'est-ce que c'est les heures SMIC? En gros, comment ça se passe quand on est artiste autoriste? C'est, en gros, il y a la valeur de tout notre asset social, tous nos revenus sont convertis par par l'URSSAF en fait en heures SMIC, un passe-passe qui est fait. Et donc c'est pour ça que dès qu'on obtient en fait 600 heures SMIC au cours de l'année, on a tous les droits qu'on a en tant qu'artiste autoriste. Et il nous en manque encore plein en fait. Donc il y a celui-là qu'on va aborder, qu'on n'a pas l'assurance chômage, mais on n'a pas les congés payés. On n'a pas l'accident du travail, les maladies professionnelles, les conventions collectives, ce qui entraîne de ça en fait l'absence de grille salariale, l'absence aussi de toutes les protections autour des violences sexistes et violences et harcèlement sexistes sexuels, etc. Donc il y a tout un cadre là-dessus. Et donc cette loi en fait elle s'attache sur ce déjà-là, et comment en fait on arrive à mettre un pied dans la porte. Et il y a déjà un statut très proche du nôtre qui en fait est déjà dans une optique beaucoup plus puissante et protectrice, qui sont les intermittents et intermittentes. Et donc on met dans cette proposition de loi l'accès à un droit absolument prioritaire qui est celui-là du chômage. Donc comme je disais, il s'agit dans cette proposition de s'inspirer du système de l'intermittence pour faire entrer l'ensemble des artistes autoristes dans la case commune de l'assurance chômage. Et en fait ce texte, il a été déposé sur trois paramètres. Le premier en fait paramètre, c'est que les artistes autoristes, dès qu'ils vont justifier d'un revenu artistique représentant au moins 300 heures SMIC dans l'année, ça veut dire 3 600 euros bruts, ils auront accès en fait à une indemnisation. Donc, pour répéter, dès que tu en fait, gagnes 300 heures SMIC dans l'année, tu accèdes à une indemnisation. Cette indemnisation, elle sera équivalente à 85% du SMIC. Par rapport à ça, nous, on a fait rentrer une nouvelle accès, et c'est en ça qu'après on parlait sur l'évolution du travail, c'est qu'en fait, au fil des années de travail, on a affiné la proposition, et la nouveauté qui est arrivée au mois d'octobre, ça a été en fait comment on peut permettre à des travailleurs et des travailleurs, comme les réalisateurs de films, etc., qui vont toucher une bourse au cours d'un an, une très forte bourse, par exemple 25 000, 30 000 euros, et qu'après, derrière ça, ils doivent tenir 3 ans, le temps de réaliser un film, etc., qui n'ont pas de revenus. Et donc, on a ajouté en fait un paramètre qui s'appelle un seuil glissant, qui est inspiré de l'AFDAS pour la formation professionnelle. Ça veut dire que dès que vous avez déclaré 300 heures SMIC au cours d'un an, 600 heures SMIC au cours de 2 ans ou 900 heures SMIC au cours de 3 ans, vous accédez à cette indemnité. Et ce seuil glissant permet d'avoir une ouverture beaucoup plus large et à une finesse par rapport aux réalités professionnelles qui ont dans cette multiplicité de travailleurs. Maintenant, après, il y a l'autre question qui est celle... Ok, c'est sympa ce que dont vous me parlez, mais en fait, comment on finance ça? Parce que c'est genre très cool, mais comment ça se passe? Comme je disais, en fait, on intègre l'assurance chômage. Donc, c'est l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est une caisse paritaire qui est gérée entre les organisations syndicales et patronales. Dans l'UNEDIC, en fait, pour rentrer, il faut du coup arriver cotiser. C'est comme en soirée, il faut arriver avec sa bouteille, quoi. Nous, les artistes autoristes, on cotise déjà en fait à l'assurance chômage par la CSG. En fait, nous, on a déjà notre part. Par contre, il y a un acteur qu'on n'a pas encore parlé, qui ne cotise pas. Ce sont les diffuseurs. Les diffuseurs, il faut savoir que, c'est-à-dire quand je parle des diffuseurs, c'est les centres d'art, les galeries, les sociétés de production, les maisons d'édition, etc., etc. Ils versent une contribution sociale 45 fois inférieure à celle des employeurs. C'est-à-dire qu'actuellement, nos diffuseurs, ils cotisent à hauteur de 1,1%. Nous, dans cette proposition de loi, c'est qu'on... On rajoute la part en fait de cotisation qui existe de celle des employeurs pour l'assurance chômage, c'est-à-dire 4,05% aux diffuseurs, ce qui ferait passer la cotisation de 1,1 à 5,15. Et ça permettrait du coup de rentrer dans l'assurance chômage. Cette petite augmentation, ça représente à des fois des échelles de centres d'art, ça veut dire des centres d'art de... On a travaillé du coup avec des centres d'art pour voir à peu près qu'est-ce que ça représentait dans leur budget. Donc centres d'art entre 150 000 et 500 000 euros de budget annuel, ça représente entre 2 et 3 000 euros d'augmentation sur leur budget. Donc on parle en fait d'une augmentation minime. Sur cette méthodologie de travail, en fait, on pourra en reparler de tous les effets, cette transformation, ça a été en fait de très longues, d'abord, ça a été de très longues réunions, tous ensemble, avec les députés, qui était un député assez incroyable, Pierre Dharréville, sur sa manière de travailler, aussi sur l'engagement et la vraie spécificité, je dirais, de cette proposition de loi et tout ce travail, ça a été vraiment de lier des organisations professionnelles, c'est-à-dire des travailleurs de l'art, des syndiqués, avec des partis politiques, des associations, dans cette vraie optique d'un travail commun, d'une proposition qui vient des métiers, qui n'arrive pas comme ça d'un parti qui va dire je veux ça, etc., et qui a un long cheminement et qui vient de la profession. Pierre disait souvent que on a fait le Front Populaire avant le Front Populaire, dans cette idée de travail commun, et ça a permis d'avoir une vraie dynamique, le fait que ça vienne en tout cas de la base, si on peut le dire pas comme ça. Et après, en effet, oui, la publication, par exemple, a servi d'être un gros outil de communication, de diffusion surtout, de pédagogie, parce qu'on est face aussi à un public qui ne connaît pas son statut, qui ne connaît pas ses droits. Ou en tout cas, qu'on les met dans des conditions de ne pas les connaître, parfois. Encore une fois, de détacher, pour en revenir à cette question de travailleurs de l'art, de ne pas se considérer comme travailleur, et donc dans cette condition qu'en fait on est artiste, d'être inintéressé par rapport où on cotise, etc. C'est une chose qui est en train de vraiment bouger, transformer, mais du coup...
En fait, pas mal de personnes dans ce gros champ-là, qu'on peut dire champ artistique, comme tu le dis, en fait, on est prolétarisé sur cette question de comment on peut subvenir économiquement. En fait, ça, c'est plein de choses dans nos formations. On n'est pas trop sensibilisé à ça. Enfin, prolétarisé au sens du savoir, pas de la condition ouvrière, mais dépossédé en fait de savoir. Et il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là.
complètement, ça rejoint au premier point dont je parlais, en fait, cette question-là de la faible organisation de nos organisations professionnelles. Déjà, il faut savoir qu'en fait, on a beaucoup de droits qui nous manquent, même au sein de nos organisations professionnelles. Par exemple, nous, on fait tous un travail bénévole. On est encore dans des syndicats qui n'ont pas encore les moyens, en fait, d'avoir, en tout cas, quand je parle de syndicats, des syndicats confédérés. Par exemple, nous, au STEM-CGT, on dépend uniquement de nos cotisations, ce qui permet d'avoir une indépendance, etc. Mais on n'a pas encore des moyens, par exemple, qui permettent d'avoir des salariés. Après, c'est des questions, est-ce qu'on a envie d'avoir des salariés ou pas, hein, ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est aussi des complications. C'est au-delà juste de cette faible structuration, c'est aussi une faible habitude des artistes autoristes de se syndiquer, de comprendre pourquoi il faut se syndiquer, etc. Parce qu'en gros, un syndicat, c'est juste un outil d'organisation entre travailleurs et travailleuses pour conquérir de nouveaux droits et pour voir notre milieu professionnel comme un espace, non pas neutre, mais de conflit. Avec des acteurs qui ont des intérêts divers. Quand je parle conflit, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des pour et des contre, enfin que tout chacun et les conflits peuvent être plus poreux. Mais en tout cas, savoir que les acteurs du monde de l'art ont des intérêts différents et divers, ont des positionnements différents, et c'est en ça que c'est une nécessité de faire bouger les lignes et de faire prendre conscience aux travailleuses dans leur multiplicité de métiers, toutes ces choses-là. Et c'est ce que nous essayons en tout cas de faire.
Est-ce que pour du coup mieux saisir peut-être l'implication de ce projet de loi, tu nous as proposé peut-être d'essayer de décrire ses effets peut-être même assez simplement, nous on reconnaît être très naïfs du coup sur cette question-là.
Les effets, c'est en fait cette proposition de loi, si elle sera, moi j'y crois fort qu'elle sera votée, et c'est pour ça qu'il faut une mobilisation vraiment très très puissante de notre secteur. Déjà son premier effet, ce sera en fait une des plus grandes avancées pour les artistes autoristes depuis le 19e siècle. Donc 19e siècle, c'est la création du droit d'auteur, ou depuis 77, le fait qu'on est rentré dans le régime général suite aussi à une forte lutte des artistes autoristes. Le premier effet, c'est déjà, ça va sortir des dizaines de milliers d'entre nous de la précarité. Nous, on estime qu'en population constante, ça veut dire 180 000 personnes, parce que c'est les chiffres un peu plus précis qu'on a, sur 180 000 personnes, ça va sécuriser 60 000 personnes avec ce dispositif-là. Le deuxième effet, ce sera en fait une fête pour la création, parce que ça va permettre d'ouvrir à des champs sociologiques réellement représentatifs de la société française, d'ouvrir nos métiers à des profils divers, d'enfin sortir de cette idée-là qu'il faut attendre 2, 3, 4, 5 ans avant de peut-être potentiellement vivre de nos métiers. Un autre aussi effet, c'est de garantir la continuité du revenu et du statut de travailleur, et en fait de ne plus être dépendant à faire des ventes et de nous faire sortir des dispositifs inadaptés. Donc la chose dont tout à l'heure on n'a pas parlé, quand je parle de dispositifs inadaptés, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, quand on est dans cet entre-deux de revenus, on finit au RSA. Et c'est des choses en fait qui ne sont que cette proposition-là permettrait de changer. Et un quatrième effet, c'est que le salaire doit précéder l'activité. Dans le sens qu'en fait le salaire est un droit à la personne et non pas une récompense d'un travail subordonné. Et du coup cette proposition aussi elle va dans ce sens-là.
Ça va dans le sens du coup du lien en fait de, en tout cas détacher le revenu du travail et l'emploi du salaire, c'est ça ?
Oui, par exemple, cette proposition s'inscrit dans les directions des travaux de Bernard Friot, de Réseau Salariat, etc. etc. Donc oui, bien sûr.
Bah, merci Jimmy, on réécoutera aussi bien parce qu'on avoue que c'est des choses qui sont des fois un peu opaques pour nous, et en fait c'est ça le, aussi on signale aussi, tu nous as apporté en fait la brochure en fait pour une continuité de revenus des artistes autoristes. Tu disais que ça commençait déjà à s'écouler à 15 000 exemplaires, donc il y a une large diffusion, il y a de plus en plus en fait de collectifs qui s'organisent en région. Je sais que par exemple dans le Nord, en fait, il y a les travailleuses de l'art qui portent ce message aussi. Et c'est aussi, je pense, peut-être un conseil qu'on peut donner aux personnes qui peuvent nous écouter, c'est de se retourner aussi vers ces collectifs pour s'en prendre de cette question collectivement et peut-être de s'éduquer et de sortir de cette question un peu d'être prolétarisé sur une condition qu'on connaît pas assez en fait.
De faire de la pédagogie, comme on le disait, et puis de l'intégrer aussi à la formation, tout simplement. On en parlait en amont aussi quand on préparait l'émission, que nous, enfin, on n'a pas eu nécessairement cette chance d'être formés à ça, ou en tout cas d'être un peu aiguillés.
Et aussi, je pense que ce qui est très important, c'est pour pas... J'aimerais ne pas prendre un vocabulaire militaire, mais en fait, c'est un peu nos armes aujourd'hui. Je trouve que, comme tu l'as dit, en fait, il y a quand même une ignorance. On est parfois encore plus précarisé qu'on pourrait ne l'être, parce qu'on est tellement... on est tellement pas au courant, finalement, de nos droits, des statuts qu'on est censé avoir. Pour la petite information, dernièrement, on a fait une formation pour l'équipe des enseignants et enseignantes de l'ESAD, et on s'est rendu compte qu'on était beaucoup à ne pas avoir le bon statut, du coup à trop cotiser, et à aussi ne pas avoir accès à des congés parentaux ou paternels et maternels, alors qu'on pourrait l'avoir. Et du coup, c'est assez navrant et catastrophique de voir à quel point aujourd'hui, finalement, à la fois c'est très opaque, mais aussi rien n'est fait d'un point de vue pédagogique pour rendre les choses justement plus visibles. Donc merci beaucoup, nous, de notre endroit, pour tout ce que vous faites, parce que je pense que c'est vraiment pour la communauté et c'est indispensable.
Merci d'être venu pour éclaircir un petit peu toutes ces données techniques qu'on ne comprend pas toujours.
Merci du coup, et je voulais juste rajouter que déjà un soutien pour les équipes et les étudiants et étudiantes de l'ESAD Valenciennes pour tout ce qu'ils ont fait, et pour ça c'est au nom du syndicat que je dis ça, le soutien qu'il y a, ainsi que pour toutes les luttes qu'il y a en ce moment dans les écoles d'art. Et pour terminer, il faut une mobilisation très très forte de notre milieu, parce qu'on peut obtenir cette proposition de loi, ce sera un changement majeur dans nos métiers, et ça dépendra que de nous. Et c'est le fin mot du syndicalisme. Il ne faut pas attendre que ce soit la politique qui s'occupe de nos droits. Il n'y a que nous-mêmes, en tant que travailleurs et travailleuses, qu'on va pouvoir changer les choses.
Merci beaucoup.
Merci.
Il faut s'organiser collectivement. Oui.
Une belle conclusion.
Merci Jimmy.
Merci.
C'est Jimmy.